Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est une expérience qu'on croyait réservée à la littérature, aux pays qu'on appelait jadis du tiers-monde, au Biafra, aux épidémies, à la sécheresse, aux camps de concentration, à la Chine, au goulag, à la guerre, au Moyen-Âge. Et pourtant, ça se passe en bas de chez nous, au fameux coin de la rue, dans 20 villes et villages de France. C'est un peu pathétique à annoncer comme ça, ça peut sembler déplacé en ce moment, mais ça ne changera rien au fait qu'il y a en France une personne sur cinq qui ne mange pas à sa faim. Le Secours populaire, publié l'an dernier des chiffres terrifiants sur cette question, estimant plus précisément que 21% des Français ont du mal à prendre 3 repas par jour, faute de moyens financiers. Sans compter ceux qui ont aussi du mal à manger des fruits et des légumes frais, les fameux 5 par jour, ou à payer la cantine de leurs enfants. L'INSEE vient à l'appui de ce constat sinistre en nous apprenant, au cas où nous ne le saurions pas, qu'en 2017, 14,2% de la population vivait en France sous le seuil de pauvreté, soit plus de 9 millions de personnes. Les inégalités se creusant et le ruissellement des richesses du haut vers le bas se faisant attendre, ça risque en plus de ne pas s'arranger de sitôt. Tout de suite donc dans les pieds sur terre, on regarde comment ces chiffres s'illustrent quand on est un enfant ou un ado, ce que ça fait au ventre d'avoir faim, comment c'est possible et comment on s'en sort. Cela se passe quelque part en France, une mère et ses 3 enfants, une puéricultrice et un professeur des écoles ont dû faire face au manque de nourriture et à la précarité extrême. 3 récits racontés par Valérie Borst et intitulés « Le ventre vide, le cœur gros et 2 euros ».
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai 27 ans, je suis professeur des écoles à Marseille. Et depuis 4 ans maintenant, je suis professeur en SECPA. C'est une structure où on accueille des élèves qui sont en grande difficulté scolaire. Donc ils sont dans des classes à effectifs réduits, où on essaye d'adapter les apprentissages à leur rythme, à leur capacité. J'ai fait une seule année en tant que professeur des écoles normales, puis je me suis dirigé là-dedans. C'était pas un choix au départ. L'idée, c'était juste d'avoir assez de points d'ancienneté pour pouvoir demander un poste à temps complet, ne pas être à cheval sur 3-4 écoles. Maintenant que j'ai assez de points pour demander ça, je reste finalement en SECPA. On s'y prend, quoi. On s'attache au job. Moi, j'enseigne dans un quartier qui est très mixte socialement. Donc, on a des élèves qui viennent des petits pavillons qui se trouvent juste à proximité du collège. Et il y en a d'autres qui viennent d'un peu plus loin, d'un quartier très populaire, très défavorisé. Donc, forcément, c'est que pas, on a beaucoup les élèves du quartier populaire. Les élèves du pavillon, ils sont dans les classes générales. Et moi, j'avais une classe de 6e. C'était une classe de 10. Et en fin d'année, je vois arriver une nouvelle élève qui trouve rapidement ses marques dans cette classe parce qu'elle est plus grande que les autres. Elle prend rapidement un rôle de leader, de grande sœur, quoi. Et dès qu'il y avait un conflit, en fait, elle sentait qu'elle avait son mot à dire. Elle conseille, elle résout les conflits, elle se battait très bien, elle était très respectée par ses camarades et elle fumait dans les toilettes. Donc elle est très dure à gérer en classe. Des journées entières où elle venait pas au collège, où on savait pas où elle était. Elle a été aussi impliquée dans une affaire de harcèlement envers une autre élève. J'ai passé quelques mois avec elle lors de la 5e, puis je la retrouve l'année d'après. C'était toujours aussi compliqué. Et puis, on a eu à gérer avec elle une histoire de vol de smartphone. Et puis moi-même, elle m'a volé. Une fois, je vais pour prendre mon goûter pour la récréation et il n'y était pas. Parfois, ça m'arrive d'arriver le matin sans avoir petit déjeuner. Je le sors devant les élèves, on en rigole un peu. Donc, ils savent où je cache mon goûter. Dans le premier tiroir de mon bureau. Et là, voilà, je constate qu'il n'y a plus mon goûter. Il suffit que j'ai le dos tourné 5 secondes pour pouvoir le prendre. Donc je sors regarder qui c'est. Et là, tout de suite, j'ai 2 élèves qui me la montrent du doigt. Qui me disent « c'est elle, c'est elle ». Les élèves aiment bien se balancer entre eux, même quand ils sont très amis. Là, je vois qu'elle a l'emballage du Kinder Bueno. La première chose que je fais, évidemment, c'est d'aller lui parler, de dire est-ce que c'était pour faire rire tes camarades, est-ce que c'était pour te faire remarquer, c'était pour prouver quoi que ce soit. Et il n'y avait rien qui venait, en fait. Elle était silencieuse, elle répond des choses comme « je ne sais pas ». Donc, je lui dis qu'elle aura peut-être un rapport parce qu'il faut lui faire comprendre que c'est grave. Je la sens vraiment tourmentée, comme s'il y avait quelque chose, mais qu'elle ne pouvait pas le dire, qu'elle avait trop honte de le dire. Elle n'a pas montré ce goûter à ses camarades. Elle l'a pris et elle est allée le manger. Donc, ce n'était pas pour faire rire la galerie, c'était autre chose. C'était vraiment pour elle. Et je comprends petit à petit qu'elle a volé ça parce qu'elle avait faim. À ses camarades, elle dit que par exemple, elle a un Wiko comme téléphone parce qu'elle elle a la valeur du travail chevillée au corps. C'est-à-dire que le jour où elle aura un iPhone, c'est parce qu'elle l'aura acheté elle-même. Elle disait aussi que son père, il travaillait, je crois, à New York, qui était businessman. Sa mère, elle travaille dans la mode, donc elle est toujours à Milan. Même à moi, elle le disait dans les rédactions, elle l'écrivait. Donc, elle disait que c'était une gosse de riche, en fait, qu'elle pouvait s'acheter tout ce qu'elle voulait, mais qu'elle voulait pas parce qu'elle voulait travailler pour l'avoir. Tout ça, c'était n'importe quoi. Rien n'était vrai. La réalité, c'est que au moment où elle écrivait ça, elle était en contact ni avec sa mère, ni avec son père, parce que... Elle a des liens très, très, très détériorés avec sa mère. Elle ne connaît pas son père. Vraiment, elle était abandonnée à elle-même, abandonnée tout simplement. C'est là qu'on découvre que ce geste, ça cache une misère, une détresse et de la solitude. Elle était en foyer, qu'on appelle des ITEP. C'est des foyers d'hébergement, c'est des foyers éducatifs, on travaille ensemble. En fait, un élève, il peut être inclus à l'ITEP soit à temps plein, tout au long de la semaine, soit sur quelques activités. Et on a découvert petit à petit que son quotidien était très difficile. En parlant avec les éducateurs qui la suivaient au foyer, qui décrivaient un peu sa vie, donc toutes les fois où elle devait être au foyer, elle n'y était pas, on ne savait pas où est-ce qu'elle était. En fait, elle était juste dans la rue, à traîner. Elle avait tout simplement faim. Elle avait 13 ans. Normalement, le week-end, les élèves rentrent chez leurs parents. Et là, le fait qu'elle soit dans un autre foyer durant le week-end, c'était un foyer d'urgence. Elle ne mangeait pas, donc elle avait faim. Vraiment, elle ne laissait rien transparaître. Absolument rien. C'est une fille qui est grande, qui semble bien portante, mais c'est vrai que le matin, elle arrive avec des cernes, elle a juste besoin de dormir. Donc au niveau du comportement, de l'activité, ça se voyait. Le lundi, quand elle venait, en fait, clairement, tout ce qu'elle faisait, c'était dormir et prendre le petit déjeuner dans le tiroir. On savait qu'on ne pouvait rien en tirer d'autre que ça. Enfin, le lundi, c'était la journée pour se remettre du week-end. Et forcément, ça choque. Ça choque, ça fait réfléchir. Quelle attitude éthique avoir face à quelque chose de pareil, en fait. Est-ce qu'il faut faire un signalement à qui? Une enfant maltraitée par ses parents, on sait quoi faire. Une enfant abandonnée à elle-même, c'est plus compliqué. Est-ce qu'on va sanctionner quelqu'un qui vole pour manger? Moi, je pensais évidemment que non. Et donc, j'ai choisi de tourner les choses à la rigolade. Voilà. J'ai choisi d'en rire avec elle. Je lui ai dit que la prochaine fois qu'elle avait besoin de quelque chose à manger ou quoi que ce soit, elle pouvait juste venir me le dire. Elle n'est jamais venue me dire « je vais un goûter ». Par contre, elle s'amusait à me dire « alors, vous avez quoi dans votre tiroir aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais petit déjeuner aujourd'hui ?» Petit à petit, moi et comme ma collègue, d'ailleurs, on laissait traîner des choses en sachant qu'elle allait venir les piquer. C'est venu naturellement, en fait. On ne s'est pas réunis en se disant « on va laisser traîner des goûters ». On était sur la même longueur d'onde, tous entre les collègues, donc ça s'est vraiment passé comme ça. Et puis, je mettais des biscuits, ça pouvait être des chocolats, j'essayais de trouver des biscuits qui soient pas trop trop sucrés non plus, mais qui fassent plaisir quand même un peu aussi. Des barres de céréales, des choses comme ça. Une pomme, elle lui aurait pas touché, quoi. Et puis, dans le goûter, faut pas oublier la partie affect, elle manquait cruellement d'affection. Et donc, lui réserver quelque chose à manger, c'était aussi histoire de lui montrer qu'elle comptait pour nous, pour ses camarades et pour l'institution. Il y a eu des dimanches soirs où je rentrais de la gare et j'avais pas envie d'aller faire les cours, je savais que j'avais pas de goûter dans le tiroir. Et la seule chose qui me poussait à aller acheter des bêtises sucrées, c'était cette gamine-là. Je me disais, elle va arriver le matin, elle va avoir besoin de petit déjeuner, donc j'allais acheter des trucs à mettre dans le tiroir. Je sais pas si on peut dire qu'il y a eu une fin de l'histoire du goûter, parce que ça a juste continué comme ça, c'était une habitude, pendant quelques mois, jusqu'à ce que je parte de ce collège. Et puis cette élève-là, elle a été une des rares à venir jusqu'au dernier jour de classe, c'est-à-dire qu'elle a été absente pendant longtemps, elle n'est pas venue souvent en cours. Par contre, le 5 juillet, quoi, elle était là. Elle nous aidait à ranger, des trucs comme ça. Quand on est prof, ça aide à relativiser. On sait qu'on ne pèse pas énormément sur les trajectoires de vie, on sait qu'on n'est pas un rempart contre le déterminisme social, mais si on peut juste servir à ça, rendre le quotidien un peu moins cruel, à juste offrir des passages qui soient agréables aux élèves, c'est déjà bien, quoi. Mais je me demande si on n'en a pas trop fait dans l'empathie. Parce que cette élève, elle a beau rencontrer des difficultés extrêmement graves, ça n'empêche pas qu'elle a besoin d'un cadre sécurisant, elle a besoin de règles. Parce que des règles, elle en a nulle part. C'est vrai que parfois, on a oublié de le maintenir. Je sais qu'on est très loin de ce qu'on aurait pu espérer. Parce que cet élève, je ne reçois pas des bonnes nouvelles quand je rencontre des amis à elle dans les transports en commun. Je sais qu'aujourd'hui, elle est censée être en troisième dans un collège pas loin. Je sais qu'elle n'y va pas ou très peu. Donc voilà, il y a des raisons d'être pessimiste concernant son avenir. Et ce qui est encore plus triste, c'est que ça ne m'a pas bouleversé tant que ça, dans le sens où ça fait partie de mon quotidien. Des élèves qui ne remplissent pas les besoins fondamentaux pour vivre, j'ai que ça devant moi. Et ben finalement, c'était juste une parmi tant d'autres. Ça me déprime. Je me dis que j'ai pas la solution face à ça. J'ai pas la solution.
J'ai 26 ans, j'ai 3 enfants. 3 mois, 3 ans et 5 ans. Ça fait 10 ans que je suis en France, j'ai tous mes diplômes ici. J'ai un CAP poissonnerie, j'ai un bac pro hôtellerie. J'ai quitté aussi mon mari, j'ai demandé le divorce et puis après j'ai cherché un travail. J'ai trouvé un travail en CDI. C'était moi qui ouvrais, c'était moi qui fermais le soir. J'étais bien payée, j'avais un bon poste. Et puis après, mon employeur, il m'a dit, stop, on peut plus continuer parce que j'avais plus de papier. S'il y a des contrôles et tout, alors on peut pas. J'ai toujours eu mes cartes normales. Et puis là, je voulais faire un renouvellement en 2018. Et quand j'ai fait le renouvellement, ils m'ont dit non. Voilà, ça m'a tout pourri. Alors je me suis retrouvée dehors avec 3 enfants. J'avais rien. Jusqu'au décembre 2018, j'ai appelé Madame Humbert. C'est mon assistante sociale, c'est Madame Humbert. Et puis elle m'a placée dans un hôtel avec mes enfants. C'est une seule chambre pour nous quatre. Tout est encombré, ça c'est un truc que je déteste. Et il y a des toilettes et la salle de bain en même temps. Et je vais à manger dans la salle de bain. J'ai une petite chaise. Que je mets la plaque dessus et je cuisine dessus, mais des fois il y a des coups de jus, je sais pas pourquoi. C'est une salle de bain en même temps. Quand je touche la plaque, j'ai des coups de jus. Des fois, quand on prend la douche et quand elle est dedans la plaque, alors peut-être que l'eau rentre en plus, le fil de la plaque il est un peu déchiré, mais voilà, je fais avec, j'ai pas le choix. Et puis on se débrouille comme on peut. Hein. Comme il fait un peu froid, je mettais tout devant la porte, mais des fois, il y a des chats, il y a des trucs, alors je ne pouvais pas, comme le lait et tout. Mais le manger, je ne pouvais pas, il faut que j'achète tout de suite et je mange tout de suite. Et puis avec le frigo, ça va mieux. Comme je vais chercher à manger tous les jeudis au Resto du Cœur, J'avais demandé, ils me l'ont donné au bout de 2 semaines. Alors la première fois, bah, c'est pas du tout facile hein, quand on va là-bas, parce que pour moi c'est un peu gênant. Mes enfants, je leur dis pas quand on va au Resto du Cœur chercher à manger. Ils disent venez, on va aller acheter à manger et on revient, parce que sinon, pour eux, ça va rester dans la tête qu'on va au Resto du Cœur chercher à manger. Puis voilà, ils sont généreux en plus là-bas, c'est super. Il y a du thon, il y a des pâtes sardines, il y a des pâtes. Avant, on mangeait de la viande normale, tous les jours, comme je travaillais, j'avais mon argent. Et puis, depuis, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de viande. J'ai pas vraiment les moyens pour acheter des trucs que équilibrés. Alors comme hier après-midi, j'ai fait des pâtes avec de la sauce tomate, hein. Comme les enfants, ils aiment bien ça. Et le soir, je fais des frites avec du pain et de la mayonnaise, quoi. C'est tout. Je fais avec les moyens du bord. Si j'ai du pain, je mange du pain. Si j'ai vraiment rien du tout, j'ai que des pâtes, je leur fais tous les jours des pâtes. Normalement, j'ai aussi du lait pour la petite. Comme moi, le lait que je lui donnais, elle vomissait. Le médecin il m'a dit de changer de lait et d'acheter celui-là, qui coûte 18 euros. J'en ai plus, j'en ai que un, parce qu'elle boit beaucoup. Je dirais la boîte, elle se termine en 1 semaine. Quand j'ai le chèque, j'achète, je fais un petit peu des courses. Alors j'ai 372 euros par mois, j'achète les besoins des enfants, comme les habits, comme le grand il va à l'école, il est bien habillé, il n'est pas sale. Et puis quand j'ai pas, je dis que maman elle a pas, puis ils comprennent. Pour l'argent, les 300 euros qu'ils me donnent, ça me suffit pas. Je les ai reçus le 3. Aujourd'hui, je dirais qu'il me reste même pas 50 euros. Il m'arrivait des fois à être à sec, pas 1 euro sur moi et pas un truc à manger. Alors, je mange pas, je leur donne juste aux enfants. Ça dépend les jours. Des fois, ils mangent, des fois, ils mangent pas. Et moi, je mange pas, ça me fait rien du tout. Moi, je vais pas mourir de faim si je mange pas un jour, quoi. Mais pour eux, non, j'aime pas quand ils me disent « maman, j'ai faim », ça, je peux pas. Et puis là, il n'y a pas longtemps, on est resté 3 jours sans manger. Et puis je suis restée samedi, dimanche, sans rien. Moi et mes enfants. Par du pain, de l'eau du robinet, ou le biberon qu'ils prenaient le matin, parce qu'ils étaient encore petits. La journée, on ne mangeait pas. On est vraiment resté comme ça, avec la faim. Quand on voit qu'on n'a rien, on ouvre le frigo, t'as rien. Tu vois tes enfants, tu leur dis, j'ai rien à manger, tu veux quoi, je peux pas. Maman, j'ai faim. Si je pouvais mourir sur place, là, je le ferais. J'ai bien tenu jusqu'à là, mais bon, ça reste très dur à vivre. Une fois, j'ai été à Cora. Alors,
c'est un supermarché.
Voilà. J'aurais ouvert un paquet de gâteaux. J'ai dit, vous mangez, mais j'ai pas pour payer. Alors, on a mangé, on a déposé dans le rayon et on est reparti. C'était un truc que je devais pas faire, que j'aime pas montrer à mes enfants. Mais voilà, j'avais pas trop le choix. Sinon, je vais perdre mes enfants, quoi. Je sais pas ce qui leur est arrivé. C'est des gosses. C'était la première fois et la dernière fois. J'ai dit plus jamais je ferai ça, moi j'aime pas. C'est comme si je volais quelque chose et moi ça, j'ai pas été élevée comme ça. On mange pas vraiment à notre femme et on mange quand même pour dire qu'on a mangé un petit peu. Pour pas rester comme ça et avoir trop faim. C'est très dur et puis j'essaye d'augmenter tout ça mais bon. Moi, franchement, j'arrive plus à vivre comme ça, à faire à manger dans les toilettes. J'arrive plus. Le premier truc que je veux, c'est un appartement, une cuisine là où je fais à manger, une salle de bain comme les gens. Et puis, je commence à être fatiguée. Je tiens debout parce que je suis obligée pour mes enfants, mais je leur montre pas. tant que mes enfants ils sont en bonne santé, ils vont à l'école, ils sont bien, ils rigolent, je les vois rigoler, je les vois jouer, alors c'est bon, ça c'est le bonheur quoi, je dirais. J'espère que ce mois-ci j'aurai des nouvelles. J'aurai des nouvelles, que j'aurai ma carte et puis comme ça je reste tranquille. Des fois que je souffle, je peux vivre ma vie comme les gens, comme je vivais avant en fait.
Jocelyne Mathieu, j'ai 54 ans, je suis puéricultrice au conseil départemental depuis 1999. J'interviens dans les écoles maternelles pour effectuer les bilans de santé sur les enfants âgés de 4 ans. Je prends en charge les enfants jusqu'à 6 ans et ce que je fais le plus sont des visites à domicile. Ça peut être dans le cadre de visites de naissance, ça peut être dans le cadre de visites d'accompagnement à la parentalité. Et dans le cadre de visites de protection de l'enfance. Il y a des situations qui nous marquent plus, et entre autres, je pense à une situation d'une jeune mère, à peine 25 ans, qui, lorsque moi je l'ai connue, avait deux enfants, qui à ce jour en a trois, et qui était vraiment dans une grande précarité financière, mais aussi sociale, puisqu'elle était en rupture avec sa famille. Elle a été hébergée après une séparation conjugale par le conseil départemental dans un hôtel. Voilà, je suis amenée à rencontrer cette jeune femme avec ses enfants. Je me rends à son domicile, comme chaque mois, à peu près à hauteur d'une fois toutes les trois semaines, tous les un mois, pour un petit peu voir comment se passe le quotidien de cette jeune maman. Je me rends bien compte que les enfants sont très actifs. Je trouve une maman qui est fatiguée, qui est, je peux le dire, je pense, déprimée. J'essaye un petit peu de refaire le point avec elle. Où est-ce qu'elle en est? J'en arrive à lui poser la question, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Je lui dis, vous faites quoi avec les enfants? Elle me dit, rien. Je dis, rien, mais vous avez des parcs autour, juste à côté de la zone industrielle, vous sortez un peu. Et là, elle me dit que ça va dépendre. Ça va dépendre de si ils ont mangé ou pas. Alors, là, je marque un temps d'arrêt et je lui dis, mais comment ça, si vous avez mangé ou pas? Elle dit, oui, parce que des fois, on mange pas. Et du coup, quand on mange pas, je sors pas les enfants. Parce que sinon, ils voient tout ce qu'il y a dans les vitrines. Ils voient, il y a quand même des marchands de gaufres, de crêpes. Et puis, ils me sollicitent, ils me réclament. Et comme je peux pas leur payer, je préfère pas les sortir et pas les tenter. Et je sens bien que ces gamins, ils ont un besoin de sortir quand même. Mais en même temps, comment faire? Qu'est-ce que je peux proposer, moi, à cette maman? Je l'ai trouvée très énervée parce que cette situation lui pesait. C'était lourd. Donc cette maman, je la reconnaissais pas. Et à un moment donné, j'ai craint. Là, c'était mon rôle de professionnel de me dire, attention, j'ai un nouveau clignotant qui est encore différent. C'est que je suis avec une maman seule, avec deux enfants en bas âge. Et qui est en train de lâcher prise. Je sentais bien qu'il y avait des gestes d'agacement, des paroles d'agacement. La maman n'allait pas bien du tout, quoi. À un moment donné, je me suis dit, elle va frapper un des enfants, voire les deux. Et je me dis, il faut que j'intervienne. Mais en même temps, comment faire, quoi? Il y a ce sentiment de culpabilité, cette injustice aussi. Comment je peux entendre qu'une mère, elle puisse pas donner à manger à ses enfants? Il n'y a pas d'argent. Sa situation fait que elle reçoit 2 € par jour et par enfant du conseil départemental. Là, c'est vraiment action-réaction. Je sors, je suis pas bien. Je vais au premier magasin du coin, qui est un magasin de décoration, mais où on peut trouver un petit peu de tout. Je fais des achats pour les enfants. Rien de bien équilibré, je le reconnais, en tant que puéricultrice. Mais des gâteaux. J'essaye quand même de mettre une petite touche équilibrée, donc je trouve des compotes, je trouve des jus de fruits, mais des gâteaux parce qu'il n'y a rien d'autre. Et puis je termine avec un paquet de bonbons. Je repars tout de suite à l'hôtel. Il se passe moins de 30 minutes. Le but, c'était pas de ramener des jouets, c'était vraiment de satisfaire un besoin à ce moment-là, le besoin de manger, quoi. pars un petit peu de ma visite avec une sensation de ne pas avoir fait grand-chose. Hein. Moi, je suis épuisée émotionnellement parce que j'ai le sentiment que, oui, cette maman, elle a pu déverser tout ce qu'elle avait envie de déverser, que moi, je l'ai absorbée, l'impression d'avoir une chape de plomb sur les épaules émotionnelles et révoltée parce que je pense que à notre époque, elle devrait pouvoir vivre dignement. Pour moi, dignement, c'est simplement pouvoir répondre aux besoins de base de ses enfants. Et même si, en effet, d'un point de vue professionnel, je ne devrais pas le faire, je vous donne 5 euros, allez, ça va vous dépanner pour acheter peut-être du pain. Mais là, je crois que je n'étais plus la puéricultrice, je crois que j'étais la maman avant tout. Le petit coup de pouce que je lui donnais, moi, finalement, pour mon quotidien, ça n'avait aucun impact. Et donc, on évolue comme ça, tout doucement, et on avance. Donc, je fais régulièrement des visites pour la soutenir, pour voir comment elle va moralement. Elle reprend un petit peu confiance en elle, elle sait qu'elle est soutenue, et du coup, elle continue à progresser. On est tout le temps, je suis toujours auprès d'elle pour voir où en sont les démarches. Elle m'appelle régulièrement. J'espère là vraiment une fin heureuse et rapide, puisqu'on est en attente de réponses. Une fois que la situation va être régularisée, moi, je vais être là plus encore un petit peu dans l'accompagnement, qui va sûrement être plus espacé, voire à un moment, d'un commun accord, dire, je crois qu'on peut arrêter l'accompagnement. Là, ça y est, vous êtes sur la route, vous pouvez y aller. Dire, voilà, ça y est, je gère ma vie toute seule. Mais c'est une super réussite, quoi. C'est ce qu'on lui souhaite le plus au monde.
ضربني الصوت الصوت شد حديدك بالخيوط الموت شي كيبوت اللي زملكني الصوت قوم شي يا بيمك ليش يدوب جنون
C'était Le ventre vide, le cœur gros et 2 euros, un reportage de Valérie Borst réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à Jocelyne Mathieu, à Jean-Louis Gérard et à Huguette Boissonna. C'est Aurélie Marcel, attachée de production des Pieds sur Terre, avec Abdel Rahim Chekroun.
L'esprit d'ouverture.